vous le savez, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et en ligne avec nous ce soir, l'essayiste et géopolitologue Frédéric Ancel. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci de nous apporter votre éclairage, Frédéric Ancel, alors que l'exécutif cherche en ce moment la parade, une réponse forte après le drame de Conflans-Sainte-Honorine. Alors, on a compris que l'un des points clés de la crise qui est en cours était la gestion des radicalisés, particulièrement les étrangers. Un débat qui entraîne beaucoup de questions autour de ce qui semble a priori facile, expulser quelqu'un d'indésirable du territoire français. Pourquoi est-ce donc si difficile, Frédéric Ancel ?
Ben d'abord, c'est difficile parce que nous sommes un état de droit. On est une démocratie, donc on n'expulse pas quelqu'un pour des raisons autres que très formellement juridiques. Autrement dit, il faut que ce quelqu'un ait commis des délits ou des crimes ou qu'il soit en passe de commettre des délits ou des crimes. Et ça, c'est quelque chose qu'il est difficile parfois de démontrer. C'est le premier point. Deuxième point, on peut néanmoins tenter de chasser quelqu'un du territoire national s'il n'est pas français. Qu'on se souvienne du fameux imam de Vénissieux dans les années 2000. Alors lui, il n'avait pas commis de crime, mais il appelait à des comportements qui étaient manifestement violents, délictueux ou criminels. Le problème, enfin ce n'est pas un problème, encore une fois, on est dans une démocratie, heureusement, hein, c'est que tout doit être mis en œuvre sur le plan juridique et judiciaire conformément aux lois pour pouvoir appliquer ces expulsions.
Alors il y a la loi, effectivement, et puis il y a le fait que la France ne peut pas décider seule du départ de ces personnes. On entre là dans une forme de géostratégie de l'expulsion avec nos partenaires diplomatiques, c'est ça ?
Absolument. Alors le mot est bien trouvé. D'abord, on n'a pas le droit de faire un apatride. C'est-à-dire que si la personne n'a pas de passeport étranger ou si elle n'a pas de pays d'accueil, eh bien, on ne peut pas l'envoyer n'importe où. Enfin, l'envoyer sur une île déserte dans le Pacifique.
Alors comment ça se passe dans ces cas-là ?
On est obligé de négocier, alors parfois en sous-main, parfois de manière très directe, avec des états d'origine hein, de ces personnes. Sauf que lorsqu'on a affaire à des gens qui sont manifestement considérés comme violents, comme potentiellement terroristes ou faisant partie d'associations interdites dans ces pays-là. Tenez, je pense par exemple aux frères musulmans, les Ikhwan, qui sont quand même interdits dans plusieurs états musulmans eux-mêmes. Bon, eh bien ces états n'en veulent pas. Et par conséquent, on est très embêté, on se retrouve avec un vrai imbroglio, effectivement, comme vous le dites, à la fois juridique, diplomatique, géostratégique.
On comprend que les pays concernés ne sont pas enclins au retour de fondamentalistes religieux sur leur territoire, hein, c'est ça que vous nous dites ?
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Prenez des pays comme le Maroc ou l'Algérie qui ont très durement souffert de l'islamisme radical. Prenez un pays comme l'Égypte qui en a très durement souffert, notamment des frères musulmans qui là-bas pour l'essentiel sont quand même en prison. Prenez des états comme les républiques musulmanes ex-soviétiques. Prenez un pays comme le Sénégal qui ne veut pas importer de problèmes terroristes et islamistes chez lui et chez eux, je parle de tous ces pays. Bah, bien évidemment, franchement, ils n'en veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle la France qui reste, et tant mieux, une vraie démocratie, doit trouver d'autres solutions.
Frédéric Ancel, quand le ministre de l'Intérieur sur Europe 1 hier matin dit qu'il va entamer des démarches avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'est de l'affichage ?
Non, je crois que ce n'est pas que de l'affichage, parce que nous avons des relations très étroites avec ces pays-là. Je pense notamment au Maroc, qui est un État très ami et à certains égards allié de la France. Je pense à un État ami qui est la Tunisie. Alors évidemment, les relations avec l'Algérie ont toujours été plus compliquées, sauf que avec l'Algérie dans les années 90, hein, lorsque ce pays a été meurtri par une guerre civile provoquée par les islamistes radicaux, eh bien, on a eu quand même des rapports extrêmement étroits, et je pense notamment aux renseignements et à la chose militaire. Par conséquent, nous avons des rapports importants, y compris sur le plan économique, avec ces États, et on en joue. Donc non, ce n'est pas que de l'affichage.
Mais alors comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on négocie avec ces pays ? C'est quoi le deal avec eux ? À quel genre d'équilibre diplomatique, économique, ça correspond ces discussions ?
On peut parfaitement négocier avec un certain nombre de pays, soit un soutien diplomatique sur une thématique ou une affaire qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islamisme radical, mais au fond, pourquoi pas, ça se négocie. C'est vrai à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est vrai au Conseil des sécurités, où vous savez que la France a un rôle tout à fait primordial. Ça peut se jouer également sur le plan commercial et économique. Après tout, on a des volumes d'échanges très importants avec les pays que vous venez de mentionner, hein, avec les pays du Maghreb. Et ça peut également se jouer sur des personnalités dont ces pays souhaiteraient hein, qu'elles soient au contraire extradées si elles ont commis des délits ou des crimes dans ces pays. Alors, dernier point quand même qu'il ne faut pas oublier, la France, État de droit, démocratie, s'interdit d'expulser des ressortissants de pays dans lesquels ils risqueraient d'être soit torturés, soit exécutés.
Soit la peine de mort, oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a une bonne coopération à l'heure actuelle ou pas avec ces pays du Maghreb qu'on a cités tout à l'heure, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc? Quel est l'état de cette coopération avec la France?
Oui, objectivement, la coopération est bonne et je vais presque vous dire par un faux paradoxe qu'elle est bien meilleure depuis les années 90 et 2000 encore qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que nous luttons tous contre le même fléau. Il ne faudrait pas que vos auditeurs pensent que la France, qui pourtant est effectivement la cible primordiale des islamistes à maints égards, il ne faudrait pas qu'ils croient que la France, c'est la seule cible au monde. Et au fond, l'islamisme radical a déjà frappé de manière extrêmement violente et mortelle dans les pays musulmans eux-mêmes et peut-être plus particulièrement encore au Proche-Orient et au Maghreb. Autrement dit, avec par exemple, prenons cet exemple intéressant, un pays comme le Maroc, nous avons des relations extrêmement étroites en termes d'antiterrorisme et en termes de renseignements généraux.
Est-ce que ces pays peuvent nous aider justement avec davantage de renseignements ?
Ils nous aident. Oui. C'est-à-dire que, pour rester sur cet exemple marocain, un certain nombre de terroristes de 2015 étaient d'origine marocaine et étaient connus des services de renseignement marocains. Alors vous savez, quand on recherche quelqu'un, quand on met la main sur quelqu'un qui est en passe de ou qui vient de perpétrer un attentat terroriste, bah évidemment, on cherche immédiatement quels sont ses réseaux et on demande à nos alliés, c'est vrai dans le cadre d'Interpol, c'est vrai parfois dans le cadre de l'OTAN, c'est vrai de manière plus générale avec d'autres États, encore une fois, je pense là en l'occurrence au Maroc, bah on leur demande de nous donner des renseignements. Et là, les relations plus ou moins bonnes, plus ou moins excellentes parfois, entre les capitales, peuvent avoir un rôle très important.
Alors on parle des fichiers S identifiés, des radicalisés qui sont peut-être ou pas passer à l'acte, mais si on considère le Maroc ou l'Algérie, par exemple, il y a aussi le problème des imams qui sont en situation irrégulière. On en fait quoi ? Est-ce qu'on peut les renvoyer ? Est-ce que ça se passe aussi facilement ? On échange quoi ?
Oui, alors ça, c'est extrêmement compliqué comme problème. C'est-à-dire que, je vais vous dire, la question n'est pas de savoir s'ils sont imams ou pas. Vous savez que dans l'islam sunnite, qui représente environ 90% de l'islam dans le monde, et l'essentiel, la quasi-totalité des Français d'origine musulmane sont, bien sûr, sunnites. Il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de clergé. Autrement dit, vous êtes imam parce que vous êtes autoproclamé imam ou parce que vous avez été proclamé imam par vos ouailles au sein de la mosquée. Bon, très bien. Mais ça ne
change rien.
Particulier. Non, ça ne change rien. En tout cas, sur le plan juridique et judiciaire français, si, encore une fois, vous êtes accusé de vouloir perpétrer des attentats terroristes, évidemment, mais ne serait-ce que si vous êtes accusé avec des éléments concrets de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les lois de la République, vous pouvez être expulsé si vous n'êtes pas ressortissant français, même si vous êtes imam.
En deux mots, Frédéric Ancel, parce que le temps court à toute vitesse avec vous, pour l'Afrique du Nord, on a l'impression que vous nous l'avez dit qu'il y a des moyens d'action, de pression. Quid de la Russie ou du Pakistan, par exemple ? Est-ce qu'on arrive à négocier aussi avec eux ?
Alors, non, c'est plus difficile. On a des relations beaucoup plus fraîches avec le Pakistan. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que ces dernières années, la France s'est considérablement rapprochée de l'Inde. Alors, inutile de vous faire un dessin, entre l'Inde et le Pakistan, c'est un état de quasi-guerre. Donc, c'est plus difficile avec le Pakistan. Et alors, avec la Russie, c'est encore un autre problème, parce que la Russie elle-même a été très durement frappée dans les années 2000 par des attentats terroristes à caractère islamiste. Et par ailleurs, comme vous le savez, la Russie, évidemment, n'est pas membre de l'OTAN. Et dans le cadre d'Interpol, c'est quand même très compliqué de discuter avec eux. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de différent.
Ça fera l'objet d'une autre invitation, si j'ai bien compris.
Voilà.
En tout cas, c'est toujours passionnant de discuter avec vous. Merci beaucoup, Frédéric Ancel, d'être venu apporter votre éclairage sur ces sujets compliqués mais concernants. Vous avez notamment écrit, Frédéric Ancel, « 100 mots de la guerre », c'est aux éditions PUF. Merci à vous.